À l'émission Marcher en creusant, nous vous proposons une émission de la série ayant comme titre « Traverser nos fragilités », animée par le père Bernard Rugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.
Quand on est atteint par un malheur, quand on est touché par un accident, quand on tombe malade, on cherche à comprendre. Cette expérience nous pousse à rechercher des explications. Pourquoi moi? Comment cela est-il arrivé? Quelles sont les causes? Comment résoudre le problème? Quelles sont les issues? Et pour y répondre, nous puisons dans la façon dont nous comprenons la santé, la maladie, telle que nous l'avons reçue de notre famille, de notre éducation. Nous avons tous ce qu'on appelle des représentations, des façons d'imaginer les causes d'une maladie, les moyens favorables pour guérir, les personnes compétentes pour nous soulager. Cela peut être marqué par notre milieu social, notre culture, notre religion. Par exemple, dans certaines cultures, la maladie est plutôt provoquée par des gens qui nous jettent un sort. Éventuellement, dans notre religion, on peut appartenir à une religion où la maladie, l'épreuve, sont considérées comme envoyées par Dieu. Actuellement, en christianisme, on réagit devant cette explication. Mais on la retrouve très largement encore dans l'islam et dans le judaïsme, par exemple. Comme chaque culture génère un ou plusieurs systèmes thérapeutiques et des théories sur les causes des maladies, il existe une grande diversité d'approches, une grande diversité aussi de propositions thérapeutiques. Et il est bon d'en être conscient, que l'on soit soi-même atteint par une pathologie ou que l'on soit engagé dans une relation d'aide, de soins, que l'on accompagne quelqu'un. Être conscient qu'il est normal que la personne se pose des questions et essaye de donner du sens. Parce qu'une personne malade, une personne fragilisée, est souvent habitée par une explication subjective de la cause de sa maladie, qui repose sur ses représentations. On a constaté, par exemple, en Allemagne, qu'un pourcentage assez important de femmes qui ont un cancer du sein interprètent cette épreuve comme étant une forme de punition. Pas forcément une punition venant de Dieu, mais la punition pour un dysfonctionnement. En tout cas, voilà, elles vivent une culpabilité. Dans certaines cultures d'Afrique noire, si une femme n'arrive pas à accoucher, les matrones, les sages-femmes, vont appeler le devin et on va l'obliger à dire avec qui elle aurait été infidèle, ce qui libérerait le passage pour l'enfant. Au Maghreb, en Afrique du Nord, on fait facilement référence à l'influence des djinns. Les djinns sont des êtres de feu qui vivent dans un monde parallèle entre le monde de Dieu et des anges et le monde des hommes, et qui peuvent être maléfiques ou bénéfiques. Donc, ces différentes explications qu'on rencontre dans différents milieux vont influencer l'interprétation que l'on va donner subjectivement. Et cette interprétation aura un rôle sur la façon dont on va vivre sa maladie. C'est sûr que si je n'arrive pas à trouver d'explication à ce qui m'arrive, ou si je pense que je suis coupable, ou si je pense que quelqu'un est en train de dévorer ma force vitale à distance, comme c'est souvent le cas dans des sociétés traditionnelles, cela va fortement marquer la façon dont je vais vivre et souffrir dans mon épreuve. Donc, lorsque l'on est en situation d'aide ou d'accompagnement, il est important de chercher à rejoindre l'angoisse de celui qui est différent. Il est important d'essayer d'entrer dans le regard qu'il pose, qu'elle pose sur ce qui lui arrive. Nous voyons bien aujourd'hui de plus en plus qu'on ne peut pas se contenter de soulager physiquement. Il faut aussi tenir compte de la question du sens. J'insiste beaucoup là-dessus dans la formation des soignants, parce que le danger, c'est de tout réduire au corps, alors que parfois la souffrance la plus importante n'est pas la douleur, mais c'est la façon dont on interprète ce que l'on est en train de vivre. Donc pour pouvoir rejoindre l'angoisse, les questions qui habitent une personne fragile, il est essentiel de la rejoindre, d'essayer en tout cas de la rejoindre dans son univers mental et psychologique, dans sa représentation culturelle, religieuse ou non religieuse de la maladie. Quand la personne se réfère à des représentations étranges ou inconnues pour nous, par exemple pour un occidental lorsqu'il est question d'ensorcellement ou de djinn, etc., le risque est grand que nous nous désintéressions du sens que la personne donne à ce qu'elle vit. Nous pouvons alors vivre des supériorités, considérer ses explications, ses réactions comme incohérentes, irrationnelles, ridicules. À moins que nous les ignorions ou que nous ne les mettions à distance parce que cela évoque une réalité qui nous dérange ou que nous sentons que nous n'arriverions pas à la maîtriser. Car ce qui nous est dit là, cette explication, n'entre pas dans la cohérence de notre propre vision de la santé et de la maladie. Il est clair que si on a une vision biomédicale de la santé, c'est-à-dire se référant à la biologie, quand quelqu'un vient dire que la cause est une cause morale ou que c'est un esprit, etc., on ne peut que trouver ça ridicule. Et pourtant, c'est pourquoi il me paraît indispensable d'apprendre à se déplacer vers celui, vers celle qui souffre, vers l'autre, autre dans un sens fort. Et cette attitude de déplacement repose sur l'a priori que toute culture, en tant que système de signification, en tant qu'explication du monde, d'organisation de la société, comporte une cohérence interne. Certes, jamais exhaustive, parce que aucune culture ne peut tout expliquer. Mais tout de même. Et donc, l'interprétation donnée par une culture très différente de la mienne a un sens, même si moi je ne la comprends pas pour le moment. C'est d'autant plus important que cette interprétation va donner un poids particulier à l'épreuve que la personne vit. Donc, à l'accompagnateur, au thérapeute, à partir à la découverte de cette cohérence, dans le but de mieux percevoir les enjeux de cette maladie, de cette pathologie. Si nous nions la pertinence du discours du patient, si nous avons des attitudes de condescendance, si nous ne prenons pas au sérieux ce que la personne dit, nous pouvons perdre toute crédibilité parce que cette personne va se dire « il ne peut pas me comprendre ». Et donc, les aides, les thérapies que nous allons proposer risquent de ne pas être prises en compte ou de perdre une bonne partie de leur efficacité. Combien de fois ai-je entendu, lorsque je travaillais en Afrique, « ça, c'est une maladie que les Blancs ne peuvent pas soigner ». Il m'est arrivé d'accueillir des personnes qui se disaient envoûtées, même ici en France, et qui m'étaient envoyées par la consultation psychologique des migrants. Dans ce cas-là, je sais que je dois prendre beaucoup de temps pour écouter leur version concernant la genèse et la cause de leurs troubles, sans disqualifier leur explication. Il me faut ensuite travailler avec la personne sur la question des pouvoirs et de la prise qu'elle donne à l'envoûteur présumé quand elle se croit complètement dépendante de lui. Il ne s'agit donc pas de nier ce que la personne donne comme explication, car elle y croit. Il s'agit de travailler avec elle sur ses capacités à maîtriser la peur, à résister à la force d'un autre, en faisant appel à d'autres ressources. Des ressources médicales, psychologiques, morales, parfois aussi des ressources religieuses.
Thank you.
devant la diversité des interprétations d'une épreuve liée à la différence culturelle, religieuse, sociale de la personne, le soignant se sent souvent impuissant. Il faut reconnaître que dans le meilleur des cas, une formation à l'écoute est donnée au soignant ou à l'accompagnateur, mais une formation où la dimension anthropologique, culturelle, religieuse est quasi absente et parfois même volontairement ignorée. Dans l'approche occidentale de la santé, l'attitude est souvent individualiste. On voit les choses de façon matérialiste, le corps est morcelante ou morcelé. On voit tel membre du corps, nous avons des spécialistes pour tel organe, telle maladie. Et du coup, on a du mal à accueillir une approche beaucoup plus globale, plus holistique, comme j'en ai déjà parlé. Or, cette attitude morcelante et matérialiste n'est pas celle que l'on retrouve dans la plupart des médecines traditionnelles et même professionnelles de l'Afrique, de l'Asie. Je pense par exemple à la médecine indienne, la médecine ayurvédique, à la médecine chinoise ou aux thérapies tibétaines, qui sont des médecines utilisées avec une certaine efficacité durant des millénaires. Dans cette approche, dans cette relation thérapeutique, la personnalité du patient, son caractère, son environnement physique, psychologique, familial, ses relations interpersonnelles, ses problèmes moraux même, dans le cas de la médecine tibétaine, ses croyances, tout cela est pris en compte, en plus des symptômes cliniques. On le retrouve aussi dans le nouveau paradigme de la santé que l'on rencontre dans les thérapies alternatives aujourd'hui, qu'on qualifie parfois de thérapie du nouvel âge. Il faut reconnaître aussi qu'en Occident, les promesses et les progrès de la médecine ont entraîné des attentes parfois démesurées de la part des personnes souffrantes. Et c'est vrai que la médecine a fait des progrès indiscutables en quelques décennies et qu'elle est remarquablement efficace dans de nombreux domaines, le cancer des enfants, par exemple. Il faut aussi reconnaître que grâce à elle, la durée de la vie s'est allongée. Des épidémies ont été jugulées. La microchirurgie réalise actuellement des merveilles. Il y a aussi les progrès réalisés dans la lutte contre la stérilité. Il y a parfois des critiques contre la biomédecine qui sont caricaturales. Cependant, il me semble que c'est à juste titre qu'on lui reproche d'être encore trop impersonnelle, réductionniste, trop coûteuse avec ces nouvelles technologies encore réservées à un petit nombre de privilégiés. Ces limites sont reconnues par certains soignants et entraînent d'ailleurs pour eux une véritable souffrance, comme lorsqu'ils voient les attentes démesurées des patients, leur exigence de résultats immédiats. Parce que les choses ont bougé plutôt dans le sens d'une toute-puissance. Aujourd'hui, on n'en est plus au droit aux soins, mais au droit à la santé. On n'en est plus à l'exigence de moyens, mais à l'exigence de résultats, d'où les procès contre les médecins. Les soignants font donc l'expérience des insuffisances de leur pratique et de leurs connaissances. Ils souffrent aussi du manque de moyens, de personnel, ce qui rend la médecine hospitalière de plus en plus lourde et dépersonnalisée. On peut se demander aussi si cette souffrance n'est pas une conséquence de l'illusion de toute puissance que la science médicale a entretenue chez les soignants, comme chez les patients d'ailleurs. Dans la logique de la mentalité moderne, la biomédecine a nourri la prétention de rendre compte de la totalité du réel, de la totalité des pathologies, par la rationalité, par une approche positiviste, par des analyses. Au point d'ailleurs que certains médecins font un diagnostic uniquement à la vue des résultats des analyses sans même avoir vu le patient. Cette attitude a laissé croire à un progrès indéfini des découvertes scientifiques et technologiques et à l'efficacité thérapeutique. Alors, bien sûr, on est encore avec des illusions, des mythes d'immortalité qui sont entretenus entre autres à propos de certaines recherches en génétique, comme à propos du clonage ou des manipulations génétiques. Or, il est vrai que, parce qu'il touche à la vie et donc au sacré dans l'esprit de beaucoup de gens, au moins de façon confuse, le médecin peut être tenté de jouer au grand prêtre. Et d'ailleurs, il est parfois pousselé à cela par les patients eux-mêmes. On sait que quand on touche à la vie, on touche à quelque chose qui est sacré pour les gens. Et quand quelqu'un est perçu comme le maître de la vie, de la mort, comme celui qui a les réponses, comme celui qui a le pouvoir, on lui donne un statut quasi sacré, et c'était le cas dans la plupart des sociétés. Il est frappant de constater qu'à une époque où les repères culturels et sociaux sont les plus menacés à cause des mutations de notre civilisation, ce sont précisément les institutions qui gèrent la vie, sa protection, sa transmission, qui sont le plus mises en question aujourd'hui. On met en question la médecine, on met en question aussi les institutions religieuses. Pas forcément pour les mêmes raisons. Mais derrière tout cela, il y a une déception. Nous l'avons vu, accueillir la fragilité, c'est oser la vulnérabilité. Nous avons donc parlé de déplacement de la part du soignant ou de la personne qui aide. Qu'est-ce que ça veut dire ? Se déplacer, ça veut dire ici quitter un lieu connu pour se diriger vers un ailleurs. Prendre le risque de perdre certains de nos repères, d'être confronté à des nouveautés. Face à la souffrance, à la fragilité de l'autre, nous sommes renvoyés aux nôtres, nos propres fragilités. Et puis, nous nous sommes construits une représentation de la bonne santé, des causes de la maladie, de ce qui favorise un retour à la santé. Certaines de ces représentations viennent de notre milieu social, notre culture, notre religion, notre propre expérience de la souffrance. D'autres interprétations ont pu être inculquées pendant une formation que nous avons reçue. Lorsque je fais de la formation de soignants, un exercice toujours bénéfique est de les aider à prendre conscience de leur vision de la maladie, de la santé, de la guérison. D'un point de vue personnel, pas du point de vue de ce qu'on leur a enseigné. En effet, dans toute démarche de soins, dans tout accompagnement, nous nous appuyons sur une certaine interprétation, sur des repères, sur ce qu'on pourrait appeler un référentiel, c'est-à-dire un ensemble de représentations, d'attitudes censées nous permettre d'interpréter les signes, les symptômes, de mieux approcher la personne souffrante, de l'accompagner dans son expérience de fragilité. Et cela nous sert de cadre pour entrer en relation et assurer une attitude juste. Or, il est important de savoir que ce référentiel qui est le mien, qui est le nôtre par exemple si l'on est soignant, n'est qu'un référentiel parmi d'autres. Il n'est pas exhaustif. Il n'a pas la même pertinence dans toutes les situations. Et c'est bien l'expérience que j'ai faite en arrivant en Afrique ou en voyageant en Inde. Donc ce référentiel, donc ce système d'explication se vérifie au cas par cas. Et c'est d'autant plus important d'être attentif aux modifications quand on est en contact avec des personnes qui ont une autre culture, une autre religion, une autre origine sociale. C'est peut-être cette raison pour laquelle les aumôniers ne sont pas polyvalents. En général, un aumônier, c'est celui d'une religion, parce que chaque religion a sa propre représentation des choses. Et c'est là que nous touchons au mystère de la personne, sur lequel il va falloir nous pencher. Oui, il est important de considérer le mystère de la personne, de l'être humain. Je crois qu'il n'y a rien de plus fascinant, de plus mystérieux qu'un être humain dans sa singularité. Et je crois que quand on s'occupe d'autres personnes, que l'on soit soignant, que l'on soit accompagnateur, on est confronté à ce mystère. Il me semble qu'il est important de garder une attitude de profonde humilité face au mystère de cette personne, que nous sommes appelés à avoir une distance intérieure par rapport au référentiel dont nous nous servons pour ne pas réduire ce mystère, ne pas vouloir tout expliquer. Le danger, c'est de vouloir prendre totalement la personne en charge. Et quand on commence le métier de thérapeute ou qu'on commence un accompagnement, on est toujours tenté de devenir d'être sauveur, de vouloir fournir toujours une solution à tous les problèmes. On cherche des réponses satisfaisantes à toutes les situations. Satisfaisantes au moins pour nous. Avec l'expérience, nous découvrons un certain nombre de réalités, telles que c'est pour finir le patient qui a la meilleure perception de son propre état. Ou bien, la souffrance de l'autre me sera toujours inaccessible. Ou bien aussi, le silence accompagné d'un geste est parfois plus important que toute parole de consolation. Et nous découvrons l'importance de la justesse dans ce type de relation. Nous en avons déjà parlé. Une attitude intérieure où nous sommes suffisamment concernés pour ressentir de l'empathie et suffisamment distanciés pour ne pas nous laisser envahir par une souffrance qui ne nous appartient pas. C'est ce que j'appelais oser se rendre vulnérable. Et nous avons vu que la vulnérabilité, ce n'est pas la fragilité, parce qu'elle nous demande d'être assez fort et d'être suffisamment conscient de nos fragilités pour avoir commencé à les apprivoiser, pour ensuite pouvoir prendre le risque de s'exposer, sans être déstabilisé. C'est ici alors que nous sommes confrontés à cette dimension culturelle de la distance dans l'accompagnement. Parce que selon les cultures, on est plus ou moins pudique. Se déplacer vers les représentations de l'autre risque aussi de nous mener beaucoup plus loin et de nous inquiéter d'autant plus que la personne offre des explications perçues comme incohérente, magique, occulte. Notons que ce déplacement vers son monde de référence ne signifie pas que nous y adhérons. Par exemple, accueillir quelqu'un qui explique sa maladie par un ensorcellement, l'écouter jusqu'au bout, respecter son explication, ne veut pas dire qu'on adhère à cette explication, mais que nous essayons d'entrer dans la cohérence que cela a pour la personne, pour pouvoir mieux comprendre quelle est sa souffrance. Et cela peut nous effrayer, parce que cela peut éveiller de l'étrangeté en nous. Il y a aussi en nous des questions non résolues, sur le mal, sur la souffrance, sur la mort. Il y a aussi des moments de profonde impuissance. Je dirais même que pour un chrétien, c'est le rappel que ce n'est pas nous qui avons la solution, que ce n'est pas nous qui nous en voyons, et que nous avons à vivre une docilité à l'esprit qui peut vivre des moments de fécondité en nous, à travers nous, déboucher sur une aide et un soulagement qui nous dépasse. Alors jaillissent dans nos cœurs des sentiments d'action de grâce et de louange. Et à ce propos, je voudrais dire un mot de la liberté intérieure dans l'accompagnement de la fragilité. Cette attitude devrait nous aider à une désappropriation dans une relation d'aide. Désappropriation par rapport à la relation, je ne cherche pas de client, et une désappropriation par rapport à l'interaction, au résultat de l'interaction. C'est-à-dire, je reste libre par rapport à une personne et je reste libre par rapport au résultat. Et c'est là qu'il est important de pratiquer régulièrement une relecture, une évaluation, seul ou à plusieurs, de la justesse de notre comportement. Tout en tenant compte que de toute façon, nous ne sommes pas maîtres de notre inconscient et que nous ne pouvons pas tout contrôler. Vécu le plus consciemment et le plus régulièrement possible, cette pratique, qui est aussi une attitude spirituelle, nous permet de mieux prendre la mesure de ce qui dépend effectivement de nous dans une relation d'être et de ce qui nous échappe. Cela nous renvoie à l'humilité et à la responsabilité. Bien sûr, nous ne prendrons jamais totalement la mesure de ce qui nous échappe, mais au moins, avoir cette attitude qui permet de faire la part des choses et de laisser de la place à Dieu. C'est-à-dire vivre une certaine démaîtrise par rapport à mon pouvoir sur l'autre. Et puis être dans cette référence à cette réalité ultime. Je ne suis pas ma propre source, je ne suis pas ma propre fin, je suis invité sans cesse à me recevoir de Dieu et dans la relation d'aide, à laisser Dieu être Dieu. Certes, cette attitude d'évaluation, ce souci de la distance juste, fait partie du travail de tout bon professionnel. Mais d'un point de vue chrétien, il me semble que c'est aussi une attitude spirituelle. C'est une attitude de liberté intérieure. Et c'est pourquoi j'aime bien donner quelques critères de ce que j'appelle la maturation, la croissance dans la vie spirituelle. Et cela peut nous aider à évaluer notre attitude profonde. Je dirais, il y a trois signes, trois critères qui nous sont donnés, qui nous permettent de vérifier dans quelle mesure nous sommes en train de progresser sur un chemin spirituel qui peut déboucher sur une meilleure aide. Un premier critère, c'est une croissance en liberté intérieure précisément. Tant par rapport à notre ego, à ses requêtes narcissiques, cette tentation que nous avons toujours d'avoir plus, de pouvoir plus, de savoir plus, de contrôler. Mais aussi une liberté intérieure par rapport aux pressions de mise en conformité de notre société, de notre environnement. Il faut faire comme cela, il faut correspondre à tel modèle, il n'y a qu'à, etc. Un autre critère, c'est celui d'une plus grande gratuité dans nos relations. Relation où l'autre est moins utilisé au service de notre bonheur, de notre épanouissement. L'autre est reconnu pour lui-même et respecté comme tel. Et puis un troisième critère, c'est le consentement à la réalité. Là, nous voyons que nous ne sommes pas dans une spiritualité qui nous déconnecte du réel, une fuite dans un autre monde. Consentement à la réalité dans deux sens, d'abord en prenant ma responsabilité pour tout ce qui dépend de moi, dans ce que je peux améliorer de cette réalité, mais aussi dans l'acceptation qu'il y a des choses que je ne peux pas changer et auxquelles il me faut donc consentir, même si ça me paraît inacceptable. Une maladie chronique, un vieillissement, un deuil, un échec. Et d'un point de vue chrétien, ces trois critères ont pour référence l'être, l'agir du Christ lui-même. C'est lui qui est vraiment le modèle de la liberté intérieure, de l'amour gratuit, du consentement à la réalité. C'est lui le modèle de la relation d'aide. C'est lui qui peut nous dire comment avoir l'attitude juste, comme il l'a eu avec Zachée, Matthieu, la Samaritaine, Marie-Madeleine. Par ailleurs, il y a aussi la découverte du mystère en nous et en l'autre, qui renvoie à quelque chose d'insondable, à cette part qui nous échappe en nous et dans l'autre, et qui n'est pas seulement la part d'ombre qui nous échappe. Nous nous échappons à nous-mêmes, sans cesse. Et le danger, c'est de vouloir tout contrôler et ainsi, petit à petit, ne plus permettre à l'autre d'exister. Je l'ai dit, vouloir répondre à toutes ces questions, parfois répondre à sa place. Tout cela fait de nous un sauveur et met l'autre en situation de dépendance. Parfois, d'ailleurs, c'est l'autre qui nous pousse à cela, qui attend de nous qu'on le sauve. À ce propos, il nous faut garder à l'esprit que si nous avons acquis une compétence, un savoir qui vient de notre formation, il faut savoir que le patient lui-même a une connaissance de sa fragilité, de sa pathologie et une expérience qui peut nous apprendre beaucoup de choses sur ce qu'il vit et à laquelle nous n'avons pas accès directement. Une soignante devenue patiente disait qu'elle a appris plus en 5 ans de soins subis qu'en 20 ans de pratique.
Vous venez d'entendre « Marcher en creusant » avec le père Bernard Hugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.